culture ce mardi à l'Assemblée nationale du gouvernement Bruno Tshibala. Dans son discours, le Premier ministre a présenté le programme de son gouvernement axé sur 4 points. Il s'agit notamment de l'organisation des élections, de l'amélioration des conditions socio-économiques des Congolais et la restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République. Quelle analyse faire du programme du gouvernement? C'est notre thème de ce soir. Et pour en parler, je reçois Honorable Crispin Ngoy. Bonsoir, Honorable. Vous êtes député national et secrétaire général en charge de la politique du parti politique RUDEC, membre de la majorité présidentielle. Vous êtes également communicateur de cette plateforme. Honorable Albert Fabrice Pouella, bonsoir. Vous êtes député national de l'opposition, leader du parti pour la Renaissance du Congo RECO, membre de la dynamique de l'opposition et du rassemblement. Professeur Bob Kabamba, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur à l'Université de Liège en Belgique et coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocafi.net.
Le Premier ministre Bruno Tshibala a présenté devant les députés nationaux, le programme de son gouvernement articulé sur 4 priorités. Avant de procéder à l'investiture de ce gouvernement, un débat entre les députés a eu lieu dans la salle des congrès du Palais du Peuple. On écoute les grandes lignes du programme d'action du gouvernement Tshibala dans cet extrait choisi par Kevin Kouté.
Le gouvernement n'a jamais dit qu'il ne va pas organiser les élections cette année. Le gouvernement n'a jamais dit qu'il ne va pas mobiliser des moyens pour financer les élections cette année. Ce que je dis, je le dis, je répète, il n'est pas possible.
Voilà, je disais donc que le Premier ministre Bruno Tshibala a présenté devant les députés nationaux le programme de son gouvernement articulé sur 4 priorités. Avant de procéder à l'investiture de ce gouvernement, un débat entre députés a eu lieu dans la salle des congrès du Palais du Peuple. On écoute les grandes lignes du programme d'action du gouvernement Tshibala dans cet extrait choisi par Kéline Kouté.
S'agissant de la mission relative à l'organisation des élections, je tiens à affirmer devant la représentation nationale l'ambition, la volonté et la détermination du gouvernement d'union nationale d'offrir au peuple congolais les meilleures élections de son histoire dans les délais convenus. Mais je dois aussi dire, pour éviter toute confusion dans ces domaines, que c'est la CENI, institution d'appui à la démocratie et non le gouvernement, qui est l'autorité compétente et indépendante chargée de l'organisation des élections par la Constitution et les lois de la République. La volonté du peuple étant le fondement du pouvoir dans notre pays. En ce qui concerne la mission portant sur l'amélioration de la situation économique, les principales réformes et actions du gouvernement au plan économique porteront essentiellement sur les domaines suivants. La mobilisation des ressources internes et externes. La relance de la production intérieure, l'amélioration du climat des affaires. Concernant la mission relative à l'amélioration du social du peuple congolais, le gouvernement s'emploiera, sous ma conduite, au renforcement du civisme fiscal, à l'intensification de la lutte contre la corruption et la fraude fiscale et douanière, à inciter l'accroissement de la productivité et de la prospérité des entreprises privées, ainsi que le développement des investissements productifs qui jouent un rôle irremplaçable pour renflouer le caisse de l'État qui sont actuellement presque vides.
Signalons que les députés du rassemblement L. Félix Tshisekedi ont quitté la salle du congrès après avoir sifflé bruyamment pendant quelques minutes, occasionnant ainsi une suspension momentanée de la séance plénière. Après la reprise, la plénière s'est poursuivie sans ces élus du peuple. Ils ont manifesté leur mécontentement à l'extérieur de la salle après l'annulation de la motion incidentielle contre le Premier ministre. Dans une déclaration lue par le député national Kondé Vila Kikanda, ces députés du rassemblement dénoncent l'investiture de Bruyamment Bruno Tshibala, car pour eux, sa nomination n'est pas conforme à l'accord du 31 décembre 2016. Honorable Crispin Ngoy, je rappelle que vous êtes député national et secrétaire général en charge de la politique du parti RUDEC, également communicateur de la majorité présidentielle. Commençons par préciser que l'investiture n'a pas encore eu lieu parce qu'il y avait une suspension de 30 minutes et que vous devriez revenir après pour cet acte solennel, honorable. Est-ce que vous pouvez le confirmer? Voilà, nous avons perdu honorable Crispin Ngoy. Honorable Albert Fabrice Puella, vous êtes député national de l'opposition, leader du Parti pour la Renaissance du Congo RECO, membre de la dynamique de l'opposition et du rassemblement. Vous avez perturbé cette plénière d'investiture du Premier ministre Bruno Tshibala. Quel était l'objectif de votre action?
Merci beaucoup. Premièrement, il faut rectifier, la motion incidentielle était présentée non par l'honorable Konde Vilaki Kanda, mais par l'honorable Koko Moulongo, élu de Lubumbashi, sur la liste de l'UDPS et alliés. Voyez-vous, et je viens avec cette précision parce que nous estimons que c'est important. N'est-ce pas qu'il a été dit que le Premier ministre est ici du Rassemblement, membre de l'UDPS, et qui a présenté cette motion, c'est un autre membre de l'UDPS, pour dire que ce Premier ministre n'a été nommé que sur base d'un débouchage. Et vous savez que, vous savez comme moi, tous nous avions appris la logique élémentaire, la logique formelle, que lorsque les prémices sont biaisées, la conclusion le sera aussi forcément. Aujourd'hui, M. Kabila pense à tort qu'il est le même président qu'il a été après 2011, c'est-à-dire après l'élection chaotique qu'on a connue, bon gré mal gré, il était proclamé élu. Il oublie qu'aujourd'hui, nous sommes dans ce que nous avons appelé justement au rassemblement. Je viens encore avec une précision, qu'il n'y a pas deux rassemblements, il n'existe un seul rassemblement. Les autres, ce sont des dissidents qui sont partis créer ce qu'ils connaissent eux-mêmes, parce que le rassemblement est un, et il est dirigé par le président Antoine Félix Tshisekedi, et M. Pierre Lumbi comme président du Conseil des Sages. Il y a eu un accord qu'on appelait l'accord de la Saint-Sylvestre. Et cet accord stipulait clairement, vous le savez, et tous les compatriotes le savent, que le Premier ministre est présenté par les rassemblements, c'est-à-dire par l'opposition, les rassemblements dont nous avons parlé. Mais on a tripatouillé, comme chez nous, le respect des textes n'est pas notre fort. Et ce qui constitue pratiquement une situation de dénégation de l'État. Il n'y a pas d'homme d'État lorsqu'on ne respecte pas les textes. Déjà la Constitution, on la respecte pas, fortiori les accords. On est passé à marge pour faire le débauchage et nommer M. Bruno Tshibala. D'où, au fait, la crise à laquelle vous assistez aujourd'hui. Et nous ne faisons pas cette lutte seulement parce que nous tenons à ce que tel ou tel soit élu, mais parce que nous voyons les mauvaises intentions de la Kabylie, les mauvaises intentions du pouvoir. Quelles sont ces mauvaises intentions? Organiser les référendums, et même refuser, repousser le plus possible l'échéance électorale. Nous avons parlé parmi les priorités de ce gouvernement, c'est l'organisation des élections. Savons-nous, vous et moi, quelle est la date de cette élection? À 7 mois de cette élection, parce que les deadlines qu'on a fixées, c'est quand même le mois de décembre.
Honorable Puella, oui. Vous dites que vous avez placé votre action dans le cadre du fait que l'honorable le Premier ministre Bruno Tshibala n'est pas nommé conformément à l'accord du 31 décembre 2016, mais on a suivi dans son discours, il s'y réfère en disant que toutes les actions, c'est celles qui sont énoncées dans cet accord. N'a-t-il pas le droit de s'approprier également ces documents si importants?
Oui, il est congolais. Tout le monde peut s'approprier de la Bible, mais tout le monde n'est pas forcément chrétien. Vous savez, M. Bruno Tshibala, je le confirme, il a été membre de l'UDPS. Il a été avec nous à Genval. Genval qui a vu naître les rassemblements. Mais par la suite, il s'est désolidarisé au fait de la suite de Genval. Ce n'est pas parce qu'il a demandé qu'on puisse rendre, qu'on observe une minute de silence encore que voilà le drame de mettre quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne maîtrise pas les us et coutumes de la vie parlementaire. Il demande qu'on observe une minute de silence. Ça, c'est même faire insulte à la mémoire du président Étienne Tshisekedi, dont il n'a pas respecté justement.
Alors, oui. quelle efficacité accordez-vous à votre action?
L'efficacité que nous accordons à notre action d'aujourd'hui, justement, c'est de lancer un message fort à l'opinion tant nationale et internationale et à lui-même, M. Bruno Tshibala, qu'il est le malvenu, que nous ne le reconnaissons pas comme Premier ministre. Parce que nous vous avons dit que les prémices étaient biaisées dès le départ et M. Kabila n'a pas. La mouvance kabiliste, parce qu'on ne doit même plus parler de majorité, la mouvance kabiliste a violé les textes signés au niveau de. Du centre interdiocésain. Voyez-vous, dans l'arrangement particulier, n'est-ce pas qu'il était dit qu'il fallait qu'on ait un gouvernement de 54 membres. Il y en a combien là-bas? 59, parce qu'il fallait faire du remplissage et satisfaire copines, épouses, épousettes et consorts. Mais ça, ce n'est pas normal. Et nous estimons que M. Bruno Tshibala ne saura pas. Parce que comment peut-on les programmes, puisque nous devons parler du programme.
Alors, en parlant du programme, ce programme est axé autour de quatre points, je les cite. Premièrement, œuvrer pour l'organisation des élections crédibles, libres, transparentes et apaisées dans le délai convenu. Deuxièmement, arrêter à la dégradation de la situation économique du pays. Troisièmement, améliorer les conditions de vie de la population. Et enfin, quatrièmement, restaurer la sécurité des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national.
D'abord, nous devons dire, en commençant par la queue, que le pouvoir a échoué. A-t-on besoin d'un gant pour qu'on instaure l'autorité de l'État dans l'ensemble du territoire? Mais M. Kabila est au pouvoir depuis quand? N'est-ce pas depuis janvier 2001? 16 ans durant.
Et donc pour vous, c'est un programme qui n'est pas du tout réaliste.
Mais pour un programme, il est soit à long terme, à moyen terme et à court terme. Et à court terme, même pour un budget, c'est une année. Mais ici, nous sommes juste pour 6 mois. Mais en 6 mois, qu'est-ce qu'il pourra faire?
Merci.
Et puis, lorsqu'il n'aura pas la maîtrise de tous les rouages du pouvoir, qu'il ne saura pas s'imposer sur les différents animateurs des postes
Merci
clés
Honora. De ce gouvernement.
Je sais que j'y reviens demain.
Je vous redonne la parole tout à l'heure. Honorable Crispin Goy, est-ce que vous êtes en ligne?
Affirmatif, je suis en ligne.
Merci. Je rappelle que vous êtes député national et secrétaire général en charge de la politique du parti politique RUDEC. Vous êtes également communicateur de la majorité présidentielle. Je disais, quand je vous ai précédemment donné la parole, que la plénière a été suspendue pour 30 minutes. Vous devriez revenir pour investir le gouvernement finalement. Est-ce que vous pouvez le confirmer?
Oui, je le confirme, puisque les différentes interventions des différents honorables députés sont terminés. Maintenant, dans 30 minutes, on va retourner pour que le Premier ministre puisse répondre. Et lorsqu'il aura répondu à toutes les préoccupations des honorables députés, il y aura vote pour qu'on apprécie s'il aura satisfait aux différentes préoccupations des députés. S'il parvient à satisfaire après les votes, à ce moment-là, le gouvernement pourrait être investi. S'il ne parvient pas à satisfaire, le gouvernement ne pourra pas être investi.
Mais d'office, on sait que vous serez satisfait parce que il a votre soutien.
Non, vous ne pouvez pas le confirmer, puisque d'abord, vous connaissez, il n'est pas de la majorité, et vous n'allez pas déduire automatiquement que d'office, il a notre soutien. Il y a eu beaucoup d'interventions, beaucoup d'interventions. Et les honorables députés, d'une manière générale, n'ont pas apprécié ce programme, c'est un programme qui est confondu à un discours, pratiquement. Un discours, mais les honorables députés lui ont demandé que nous vous écoutons, mais nous attendons le budget qui devra matérialiser ce programme le plus vite possible.
Mais du moins, il a le soutien du chef de l'État qu'il a nommé. Et vous faites partie de la majorité.
Vous
devez vous soumettre à l'autorité morale.
Les accords, et il ne peut pas nommer quelqu'un avec qui il est en conflit. Il ne peut avoir que le soutien, c'est tout à fait normal pour l'aider à réaliser son travail, puisque le chef de l'État est à la recherche du bien-être de la population ainsi que de la paix de la République. Il ne peut qu'avoir son soutien, c'est tout à fait normal.
Alors, honorable Crispin Goy, cette plénière s'est déroulée dans une atmosphère assez particulière. Vos collègues du Rassemblement ont perturbé la plénière, ils ont quitté la salle. Comment vous avez jugé cette action?
Donc, vous savez que les actions, ce sont les habitudes parlementaires. C'est la démocratie. Dans la démocratie, chacun est habilité à réagir s'il n'est pas satisfait de la manière dont les choses sont faites. Mais ce qu'on a déploré, c'est quoi? C'est qu'on a déploré que les honorables députés sont installés dans la salle. Et cette salle-là n'appartient à aucun parti politique. C'est le Parlement du peuple congolais. C'est le peuple congolais représenté. Et qu'au cours de cette salle, qu'on voie les collègues transférer leurs sentiments politiques de l'extérieur vers...
Honorable Tespengoy,
vous m'écoutez?
Vous êtes en ligne, honorable, allez-y.
Ok. Que les aient transféré les sentiments politiques vers l'intérieur de la salle. Ça, on n'a pas voulu supporter ça. Pourquoi? Puisque, à l'issue de la motion incidentielle qui a été lue par l'honorable Coco Moulongo, et cette motion incidentielle a cherché à ramener un débat de partis politiques au sein du Parlement. Et c'est ainsi qu'on lui a dit, non, d'abord, lui-même, Coco Moulongo, c'est un chasseur de l'UDPS. Il a été repoussé de l'UDPS, il n'a même pas le droit de parler au nom de l'UDPS. C'est un chasseur de l'UDPS. On lui a demandé de ne pas intervenir sur cette motion. Et plus de cela, comme les débats politiques sont l'apanage des états-majors politiques, on lui a demandé tout simplement d'aller soulever ces débats-là dans un cadre autre que le Parlement.
Et donc,
alors il fallait aller le faire
et donc,
au niveau
vous,
là où les RASOP se réunissent, ou bien à la CENCO, et d'ailleurs, ce qui est drôle, la CENCO a déjà fermé toutes ses portes. Pourquoi? Parce qu'ils ont traité tous les problèmes, il leur restait deux points, ils sont allés faire rapport au chef de l'État, demandant au chef de l'État de résoudre les deux points restants.
Et de ces deux points restants,
voilà, le chef de l'État venait de nommer le premier ministre sur base de la liste lui transmise par le Rassemblement. Et alors, sur base de cette liste, il y avait cinq noms et il a désigné un nom, c'est Bruno Tshibala. L'ordonnance signée, nous, honorables députés, nous sommes devant le gouvernement, nous devons l'écouter, soit l'investir, soit ne pas l'investir.
Alors, honorable, vous avez suivi le programme du Premier ministre du gouvernement Bruno Tshibala, axé autour de quatre points. L'honorable Puela a estimé que c'était tout à fait irréaliste, irréalisable, puisqu'il ne restait que six mois d'ici les échéances électorales.
Vous connaissez que... Alain, dans ce pays, l'opposition, nous les appelons, nous, magiciens. Ce sont les gens qui se disent, avec un bâton magique, qui sont capables de transformer la République en un jour. Ça m'étonnerait que l'honorable Puela puisse le dire, puisqu'eux disent que ceux qui sont au pouvoir ne travaillent pas, il n'y a que eux de l'opposition qui sont à mesure de travailler. Et aujourd'hui, Bruno Tshibala est là, c'est lui des PES, c'est les champions de l'opposition. Nous ne pouvons pas douter du réalisme de son programme. C'est lui-même qui nous dit, c'est lui-même qui nous parle que dans les délais qui restent, il va faire ça, il va faire ça. Nous, on ne peut pas douter de ça. Il appartient à l'opposition de douter de ça, puisque ce sont les gens qui disent aux longueurs de journée qu'aujourd'hui, une fois au pouvoir, la population va manger 6 fois par jour, tout va se régler de soi-même. Je crois que l'honorable Puela ne va pas me contester.
Alors,
et il ne peut pas aujourd'hui contester du Bruno Tshibala.
Honorable...
Il cherche le bonheur du peuple en un jour ou en 6 mois.
Honorable Tespengoy, je vais vous demander une très brève réponse avant de donner la parole au professeur Bob Kabamba. Dans le volet élection, l'honorable Puela, disons le premier ministre Bruno Tshibala, dit, je cite, il faudrait l'exploration des voies et moyens de rationalisation du système électoral pour la réduction des coûts des opérations, la détermination de l'impact technique et financier sur les élections et du mode de scrutin actuel et éventuellement envisager sa rationalité en instaurant un seuil d'éligibilité de 5% à 10%. Et l'honorable Puela, en passant, a dit que tout ça visait finalement à organiser le référendum. Très brièvement, qu'est-ce que vous répondez?
Nous n'avons pas entendu les mots référendum de la bouche du Premier ministre. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, le premier ministre est chef du gouvernement. C'est lui qui voit ce qu'il faut faire pour qu'il amène le peuple aux élections libres, transparentes et apaisées. S'il a promis de faire une étude qui pourra déterminer l'impact sur les modes, sur les modes de scrutin, il appartient à ce dernier de faire ses études. Il ne nous appartient pas à nous de l'empêcher de faire ses études.
Merci,
vous ne savez pas peut-être s'il a déjà fait ses études avant. Je suis sûr qu'il était dans l'opposition bien avant. C'est qu'il doit avoir eu des techniques bien avant qui nous permettront de réussir à ces missions qui lui sont confiées.
Merci, honorable. Je reviens à vous tout à l'heure. Professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique et coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Professeur, comment vous analysez le programme du gouvernement Bruno Tshibala?
Merci pour l'invitation. Bonjour, bonsoir donc aux auditrices et auditeurs de Radio Capi. Et donc je crois que le M. Tshibala a axé donc son intervention sur quatre points essentiellement. La première justement liée à la question des élections, la deuxième amélioration des conditions de vie de citoyens congolais et aussi améliorer le climat des affaires, le niveau économique et enfin restaurer l'état sur l'étendue de la République. Je pense très sincèrement que lorsque l'on entend effectivement ce programme qu'il a présenté aujourd'hui, on doit se rendre compte qu'il y a vraiment véritablement un décalage entre d'une part ce qui est dit et ce que représente la réalité, c'est telle qu'elle est vécue en RDC de manière générale. Parler de pouvoir mobiliser les ressources pour pouvoir organiser des élections, nous le savons tous que depuis maintenant un petit temps, les recettes, le niveau des recettes de l'État congolais sont au plus bas. Nous savons depuis quelque temps que les secteurs miniers ne rapportent plus autant qu'avant lié à la dégradation de cours au niveau mondial. On sait très bien que l'activité économique tourne au ralenti, donc aussi bien dans les différents secteurs, que ce soit le secteur primaire ou bien le secteur secondaire, voire le secondaire tertiaire. Et donc la situation est à l'économie et au ralenti. Et donc je vois mal où est-ce que le Premier ministre va trouver des moyens pour pouvoir mobiliser et organiser ces élections. Et vous savez très bien que les élections qui ont été le budget de ces élections a été évalué dans un premier temps à 1,2 milliard et ensuite à 1,8 milliard. Alors lorsque l'on sait que l'ancien budget a été de 4 milliards, la moitié pourrait passer uniquement pour l'organisation des élections, en ne tenant plus compte d'autres secteurs ni d'autres priorités du gouvernement. Je pense que c'est vraiment utopique. Deuxièmement, sur la question donc de l'amélioration des conditions, c'est lié bien sûr au niveau de recettes de l'État. Je doute très fort que dans le contexte actuel, que l'on peut parler de pouvoir essayer d'inverser plutôt la dégradation, d'inverser la tendance de la dégradation des conditions de vie des Congolais. Le taux d'échange qui change tous les jours, c'est le moins qu'on puisse dire, et du fait qu'il y a un ralentissement de manière générale de l'économie a comme conséquence que les conditions de vie des citoyens ne vont pas s'améliorer. Et les conditions de vie dépendent aussi, d'une part, des investissements qui peuvent venir de l'étranger, comme on appelle, ça appelle ça des IDE, c'est-à-dire les indices de développement économique. Donc ça, aussi, lorsque l'on regarde avec le climat actuel, qui est un climat incertain, les investisseurs étrangers ne sont pas tentés de pouvoir venir investir dans un pays où il n'y a pas encore une stabilité qui soit confirmée. Et donc
professeur,
là aussi, donc il n'y aura pas amélioration des conditions de vie.
Professeur,
alors, l'État, le dernier point qui concerne la restauration donc de l'État au niveau de toute l'étendue du pays, là j'ai deux forts et on a déjà la preuve, déjà depuis quand même quelques temps, vous avez les gouverneurs de province qui sont chacun, plusieurs sont destitués par les assemblées provinciales. Et on a l'impression même qu'il y a une dynamique qui est en train de se passer dans les provinces et qui n'a rien à voir avec ce qui se passe à Kinshasa. C'est-à-dire que ceux qui sont dans les provinces décident ce qu'ils veulent et ne suivent même plus les directives des partis politiques, des ministres qui sont à Kinshasa. Donc on a vraiment une espèce d'écartement entre l'État central et les provinces. Alors s'il y a écartement entre l'État central et les provinces, et l'écartement va se poursuivre aussi à un niveau plus bas, c'est-à-dire au niveau des villes et au niveau des communes. Et à cela,
professeur,
il faut rajouter l'autre dimension qui est malheureusement très 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 grave, c'est la question qui est liée aux différents groupes rebelles qui, depuis quand même plusieurs mois, ont de contrôle toute une série de territoires qui sont ottomans, soit des Maïmaï, soit des rebelles, soit
professeur
des
Bob Kabamba.
Oui.
Professeur, quand on a pratiquement l'impression que vous doutez de tout dans ce programme, est-ce que quand vous évoquez le fait qu'il sera difficile à Bruno Tshibala de mobiliser les ressources pour organiser les élections, est-ce qu'il n'a pas raison quand il parle de la rationalisation du système électoral pour la réduction des coûts des opérations?
Alors, rationaliser le système électoral par rapport au coût des élections. Nous sommes au mois de mai. Nous sommes au mois de mai. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait une nouvelle loi qui soit adoptée. Et que cette nouvelle loi adoptée doit aussi tenir compte des principes généraux qui sont dans la Constitution de manière claire, qui définit quand même toute une série de prérogatives qui doivent être respectées pour qu'il puisse y avoir des élections crédibles et apaisées. Alors, si on change de mode de scrutin, c'est-à-dire qu'on fait un forcing, ça ne va pas beaucoup modifier en termes de coûts. Le coût sera toujours le aussi élevé. Ça va avoir une économie à la marge. C'est-à-dire à la marge, notamment, ce sera au niveau de la question des délais. Les délais qui pourraient se raccourcir. On pourrait raccourcir les délais. On pourrait arriver, par exemple, en disant on réduit les frais électoraux. Ça veut dire qu'on réduit les délais. Et je ne pense pas que cette mesure-là, cette piste que vous évoquiez,
merci,
soit une piste qui va avoir l'assentiment non seulement de la classe politique congolaise, merci, mais aussi de la population, puisqu'il va être vu et comme une espèce de tentative, encore une fois, de ne pas aller aux élections ou
merci,
de
professeur,
pouvoir étaler encore beaucoup plus les processus électoraux.
Merci, professeur. Honorable Fabrice Puella, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Goma.
David Kanda, mon côté depuis Goma. Je félicite le gouvernement Tshibala. Mais je souhaiterais que Bruno Tshibala ainsi que tous les acteurs politiques de la République démocratique du Congo d'avoir le courage pour dire à la population congolaise clairement et véridiquement qu'il serait pratiquement impossible d'organiser les élections en 2017. Parfois, il faut dire la vérité directe à la population, même si cette vérité en question est dure à avaler.
Honorable Puella.
Merci beaucoup. Félicitez monsieur Bruno Tshibala pour avoir seulement été désigné dans les conditions que l'on connaît. Il entre dans sur la liste des anciens premiers ministres, c'est peut-être un mérite, mais on ne peut pas, à ce niveau de responsabilité, féliciter un homme qui va, je suis convaincu, je partage le pessimisme du professeur Bob Kabamba, quelqu'un qui ne maîtrisera rien. D'abord, même les membres de son gouvernement qui lui sont imposés, et ce sont des membres qui dirigent même les domaines les plus importants de l'économie. Comment pouvez-vous, et c'est là que je peux même réagir à mon co-débatteur, monsieur l'honorable Chris Pengoui, il dit que les députés, les membres de l'opposition ont comme des bâtons magiques, mais non. Ce n'est pas des bateaux magiques. Lorsque on dirige un gouvernement ou un État, il y a des normes élémentaires qu'il importe de suivre. Et parmi ces règles élémentaires, c'est par exemple l'unicité du trésor. Le trésor public a toujours, partout, et même la loi, partout dans les pays normands, le trésor est unique. Mais chez nous, il y a multiplicité. C'est-à-dire que notre caisse est devenue un tonneau des Danaïdes. Telle ressource va dans telle. Parlons par exemple du problème des passeports. Où a-t-on déjà entendu parler d'une circulaire interministérielle? C'est du jamais vu. Un marché aussi important qu'on donne à des expatriés et même pour lesquels on fait les paiements alors qu'il n'y a jamais eu passation de marché selon les lois qui régissent la République. Vous avez plusieurs ordonnateurs maintenant, au lieu d'avoir un ordonnateur sur qui on devait exercer le contrôle par la Cour des comptes et par le Parlement. Et aujourd'hui, même monsieur Raymond Tshibala, Bruno Tshibala, il n'a même pas la maîtrise parce que à sa place, qu'est-ce qu'un homme moyen aurait fait? Chers compatriotes, voici la situation. Il brosse la situation qu'il trouve. Voici ce que nous pouvons faire. Le minimum pour un programme, c'est celui-là. L'état des lieux, voici ce que nous sommes en mesure de faire pour les quelques mois qui nous restent. Voyez par exemple le manque de volonté que nous avons. Si le premier point, l'organisation des élections. Il dit qu'il y aura des retenues trimestrielles. Trimestrielles? Parce que lui fera combien de temps? 12 ans? Ou combien? Même pas parler de mensuel, de retenir mensuel, de donner un budget conséquent. Comment lui pense qu'il peut mobiliser les recettes lorsqu'on sait que toutes les recettes de cette République ne prennent plus la même destination? C'est devenu un problème courant et tout le monde le sait, qui n'aura même pas la maîtrise des finances. Dans un pays en déliquescence, j'ai parlé du problème des passeports, où on est en train d'escroquer les Congolais. Le gouvernement belge a ouvert une action judiciaire. Mais chez nous, au pays, aucun bruit. Silence radio. Mais c'est grave. Comment est-ce que M. Bruno Tshibala, je n'ai pas appris que M. Bruno Tshibala était un magicien, quand bien même il peut être congolais venu de l'opposition, mais je pense qu'il devrait être sincère, comme les compatriotes l'ont dit. Mais pour nous, puisque nous ne les reconnaissons pas comme Premier ministre, nous disons qu'il pleuve, qu'il neige, nous devons avoir nos élections. Parce que, et c'est ça qui est important, parce qu'aujourd'hui, on parle d'une mouvance, il y a plusieurs ailes maintenant, mouvance pro-Obeminaku, mouvance dans l'avion, avec tous ceux qui font des pérégrinations à gauche, à droite. Nous pensons, nous estimons que nous devons être sérieux. La République démocratique du Congo nous appartient. On n'a jamais eu le bilan des 5 chantiers. On n'a jamais eu le bilan de la révolution de l'ère modernité. Oui.
En parlant de l'amélioration des conditions socio-économiques des Congolais, le Premier ministre Bruno Tshibala a dit qu'il ne voulait pas faire des discours démagogiques, qu'il voulait que le Congolais connaissent la réalité des choses, qu'il appelle simplement les Congolais à serrer un peu la ceinture et que ça pourrait marcher.
Je ne voudrais pas être un prophète des malheurs. Monsieur Bruno Tshibala, dès le départ, a déjà échoué. A-t-on déjà enregistré un seul Premier ministre dans cette République qui est conspié, brillamment, qui est conspié par la représentation nationale telle que ça a été fait aujourd'hui? Jamais. Voyez-vous, par exemple, si on avait un Premier ministre qui maîtrise les choses, même dans ces cas-là, n'est-ce pas que vous avez suivi, l'immeuble intelligent a été construit hors budget. Bukanga Lonzo, de l'argent, des millions de millions jetés. Congo Airways, est-ce que lui, vous pensez qu'il pourra venir et faire la différence? Mais c'est Crispin Goy, il doit connaître, doit comprendre aujourd'hui que le problème, c'est dans leur mouvance kabyliste qui manque la maîtrise des notions élémentaires de la gestion de la chose publique.
Merci. Honorable Crispin Goy, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Kananga.
Gaston Bouchabou de Kananga. Après l'investiture de Sami Badibanga, les résultats sont les mêmes. Il a garanti l'accouchement gratuit, l'enseignement gratuit et rien n'a été réalisé. Toutes ces paroles prouvent le non-respect des peuples congolais. Mais c'est Bruno Tshibala, sa nomination viole l'esprit et la lettre de l'accord de la Saint-Sylvestre, la seule source de légitimité. Donc, ce gouvernement est illégitime. Ils sont pour l'intérêt de la majorité qui n'a pas manifesté sa bonne volonté d'organiser les élections. Pour sortir de la crise, il faut l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre et l'application à l'intégralité de l'accord 2348. C'est la seule source de légitimité car...
Voilà, honorable Crispin Goy, vous avez compris que l'auditeur voulait parler de la résolution 2348. Qu'est-ce que vous lui répondez?
Je veux seulement lui dire que... Il faut qu'ils comprennent que la résolution 2348 n'est pas celle qui donne la légitimité à la République démocratique du Congo. Ça, c'est un manque de connaissance. La résolution 2348 des Nations Unies, ça n'a rien à voir avec la légitimité au Congo. Mais avant que je puisse continuer, je voudrais un peu clarifier ce que mon co-débatteur, mon cher collègue Fabrice Albert-Pouella, venait de dire tout à l'heure. Le problème qui est là-bas est qu'il ne fallait pas sortir de la salle. Fabrice Albert Pouella a tout le pouvoir dans la salle de dire tout ce qu'il vient de dire pour contrecarrer le Premier ministre. Il avait tout le pouvoir. Et puis en plus de cela, il a aujourd'hui tout le pouvoir de contrôler Bukanga Lonzo. Il a le pouvoir de contrôler l'immeuble intelligent. Il ne peut pas se plaindre. Il n'a qu'à utiliser le pouvoir que le peuple lui a donné pour qu'on puisse aboutir au bien-être, parce que c'est ça notre objectif. Ce qu'il fallait faire, c'est quoi? Il fallait rester dans la salle, il fallait poser tous ces problèmes dans la salle, et puis il fallait contrecarrer le Premier ministre en face pour qu'il ne soit pas investi. Et jusque maintenant, la salle est encore ouverte. Après ce débat, nous retournons tous dans la salle Fabrice Albert peut venir de la salle et on continue le travail pour l'intérêt de notre peuple.
Honorable Crispin Goy, vous avez suivi le professeur Bob Kabamba douter de la mobilisation des recettes, de l'amélioration des conditions socio-économiques des Congolais et même de la restauration de l'autorité de l'État. Qu'est-ce que vous lui répondez?
Je vais dire au professeur tout simplement que dans ce pays, nous devons palper des doigts de réalité. Aujourd'hui, on ne peut pas douter de la capacité de Bruno Tshibala, qui est de l'UDPS. C'est ici, dans ce pays, qu'on nous a dit, l'UDPS au pouvoir, tout le peuple sera très bien. Et aujourd'hui, Bruno Tshibala est là, donnez-lui la chance, donnez-lui le soutien, pour qu'il fasse sortir le peuple congolais du marasme économique. On ne peut pas tellement mais se mettre à douter de son incapacité de mobiliser des recettes.
Alors,
je répète encore ce que je dis, vous ne connaissez pas sa capacité. Comme là-bas au niveau de l'opposition, ce sont les gens qui utilisent les bâtons magiques, je le répète encore, pour résoudre des problèmes. Alors ne doutez pas que Bruno Tshibala puisse utiliser son bâton magique, qui est habitué à l'opposition. Même mon collègue Fabrice Puella. Si aujourd'hui on le nomme Premier ministre, il va recourir au bateau magique. Et nous allons toujours... C'est que nous voulons que le peuple congolais puisse bien se retrouver.
Alors,
dans la manière de vivre.
Honorable Crispin Goy, sur le plan économique, le Premier ministre Bruno Tshibala a par exemple dit qu'il allait maintenir la discipline budgétaire actuelle au moment où il affirmait aussi que les caisses de l'État étaient presque vides, n'est-ce pas, un peu contradictoire?
Non, ce n'est pas contradictoire, Alain. Il a constaté que les caisses de l'État étaient pratiquement vides selon lui, puisque là nous n'avons pas encore fait la reddition des comptes pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans les chefs des caisses de l'État. Alors lui, il s'est donné une discipline budgétaire. C'est juste au début, il dit, moi je vais gérer l'État avec la discipline budgétaire. S'il lui trouve que ça n'appliquera la discipline budgétaire qu'on aura à maximiser le recette de l'État, nous ne pouvons que lui faire confiance. Nous ne pouvons que le regarder pourvu que les missions qui lui sont confiées puissent être exécutées, que les missions qui lui sont confiées puissent réussir. C'est ça que le peuple congolais attend. Le peuple congolais n'a pas besoin de disputes, n'a pas besoin de déclarations. Le peuple congolais a besoin de voir son social s'améliorer.
Merci, honorable Crispin Goy. Je reviens à vous pour la conclusion. Professeur Bob Kabamba, il y a pour vous cette réaction que nous allons suivre.
Rémi Nugabo, Ouvira, province du Sud-Kivu. J'estime que les mécontents ne le sont pas par rapport à ce qu'ils qualifient de violation des accords de la Saint-Sylvestre. À mon avis, j'estime que ça tendait à être nommé dans ce nouveau gouvernement.
Hélas, les accords du 18 octobre l'ont...
Voilà, je pense qu'il y a un petit problème avec cet élément, veuillez nous en excuser. Professeur, dans plusieurs interventions que nous avons suivies des honorables députés, ils ont appelé le Premier ministre à mettre l'accent également sur la décrispation politique. Comment par quoi cela peut-il passer?
C'est un des points essentiels qui se trouve aussi dans le cadre de la résolution des Nations Unies, la dernière résolution qui insiste justement sur les mesures de discrimination pour insister sur cette question-là et permettre un petit peu que la tension qui se vit actuellement au niveau du Congo puisse baisser en libéralisant les activités politiques. Je pense très bien que cette question peut contribuer à apaiser et à aller permettre à ce que les uns et les autres reviennent autour de la table pour arriver à un consensus par rapport au processus électoral et par rapport justement à l'alternance politique que tout un tous espèrent et souhaitent. Et les mesures de décrispation, pour ma part, partiraient dans un premier temps de la libéralisation donc des activités politiques. Libéraliser des activités politiques, c'est-à-dire permettre encore une fois qu'il puisse y avoir des congrès, qu'il puisse y avoir des manifestations, et des manifestations pacifiques, bien entendu, des manifestations, puisque les manifestations sont un moyen d'expression et qui sont reconnues par la Constitution et qui sont reconnues non pas par la Constitution, mais aussi par la Charte des droits de l'homme. Donc clairement, ça passe aussi
par la libéralisation, bien sûr, de la liberté de la presse et aussi la libération de certains médias qui ne sont toujours pas, dont ça n'a pas été le cas. Et enfin, quand on parle de décrispation, il y a aussi les questions liées à la libération de certaines personnes dont la liste a été dressée par la CINCO à son temps et où on a répertorié toute une série de gens qui étaient en prison sans, pour des motifs politiques. Je pense que toutes ces mesures-là, si elles pouvaient être prises, cela permettrait vraiment de manière concrète de pouvoir apaiser les esprits au niveau des politiciens et ça aura certainement une répercussion au niveau de la population où on va assister à une baisse de tension et à une baisse de pression comme on connaît actuellement soit à Kinshasa ou bien dans les principales villes de la RDC.
Professeur, ces mesures ont été prises pratiquement depuis décembre 2016, mais l'application pose toujours problème et certains analystes y voient un certain manque de volonté de la part du pouvoir en place finalement à décrisper cette situation politique.
Vous avez raison sur la question. Les mesures sont prises, mais justement la mise en œuvre à chaque fois pose souvent problème en RDC. Il y a beaucoup de décisions qui sont toujours prises dans le bon sens. Malheureusement, on se rend toujours compte que la mise en œuvre pose toujours problème. Et non seulement la mise en œuvre, des fois même le respect même des engagements qui sont pris publiquement au niveau international et dans le fait généralement ne se retrouvent non exécutés. Et ça découle bien sûr de la volonté politique de pouvoir les mettre en œuvre. Et lorsque la volonté politique est absente, vous pouvez essayer d'avoir les meilleurs textes du monde. Si vous n'avez pas la volonté politique, les textes vont rester lettre morte et on n'y aura pas de changement ni d'amélioration de la situation. Et c'est pour ça qu'au niveau, niveau politique, on n'assiste pas justement à des crispations. Et de ce fait-là aussi, on assiste à cette tension et qui pourrait à un moment donné dégénérer et s'embraser et qui pourrait dépasser aussi bien la majorité que l'opposition. Est-ce que vous imaginez que si le peuple décide de pouvoir se prendre en charge en disant que non, la situation a trop duré et qu'ils veulent eux-mêmes régler la situation, on arriverait à une situation catastrophique où on aurait manifestation, répression, et qui dit répression dirait des dizaines de morts, et qui dit des dizaines de morts, on rentrerait dans une situation chaotique que je pense que tout un chacun ne souhaite pas voir arriver dans les prochaines semaines.
Très brièvement, professeur, en guise de conclusion, vous doutez pratiquement de tout concernant le gouvernement Bruno Tshibala. Que peut-il faire finalement pour conclure?
Oui, je pense qu'il faut qu'il pratique un langage de vérité. C'est-à-dire, grosso modo, quand il parle de mobilisation des recettes, il faudrait dans un premier temps qu'on sache plus ou moins à quel niveau on se situe pour parler de mobilisation des recettes. On parle de mobilisation des recettes sans savoir ce qu'il y a déjà dans les caisses pour essayer de pouvoir au moins planifier quelque chose de correct. On parle aussi par rapport à l'amélioration des conditions. Il serait bien de pouvoir d'abord arriver à un cadastre, à partir du cadastre, arriver à dire des choses concrètement.
Et
de ce point de vue-là, s'il arrive à avoir des données et des indicateurs clairs, qui lui permettent d'avoir des indications claires, il peut clairement dire qu'il n'y aura pas d'élection cette année, parce
Merci
que simplement, il n'a pas les moyens de pouvoir le faire.
Merci, professeur honorable Crispin Ngoï. En guise de conclusion, quelle chance accordez-vous au gouvernement Bruno Tshibala?
En guise de conclusion, comme je venais de répondre à notre ami de Kananga sur la résolution 2348, je voudrais encore revenir en lui disant que toute légitimité provient du peuple, et c'est le peuple qui octroie la légitimité aux institutions. Et alors, il ne faut pas qu'il puisse s'imaginer que c'est l'accord qui donne la légitimité. L'accord ne donne pas la légitimité. C'est le document de la Constitution qui donne la légitimité, puisque c'est ça l'expression du peuple.
Merci, honorable.
En conclusion, je voudrais finir par dire, Bruno Tshibala, il est de l'opposition, qu'ils se mettent au travail, que les peuples congolais puissent obtenir ce qu'ils attendent, c'est-à-dire le bien-être social.
Merci.
C'est-à-dire
Merci, honorable.
Et assurer la sécurité.
Honorable Pouela, conclusion.
Monsieur Bruno Tshibala n'est plus de l'opposition. Pour preuve, dès l'entrée des Jeux, dans son discours, il a commencé par pratiquement lever tous ses os, remercier, s'incliner devant Monsieur Joseph Kabila et même, nous pensons, puisque d'une source amère ne peut sortir de l'eau douce, nous ne nous donnons pas beaucoup de chance. Mais nous tenons à ce qu'il y ait des élections. Merci.
Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe rédactionnelle de Dialogue entre Congolais. J'ai cité Guy Maté, Kélin Kouté, Berry Franklin Luchaka, sous la supervision de Pélegui Pelamondo, à la mise en onde de Jean-Claude Ncia, à la présentation et coordination, Alain Rong Mouchige. Merci de votre attention. Au revoir.